penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Père Évrard.
Bonjour Père Poirier.
Donc je rappelle que vous êtes un père jésuite qui est maintenant basé à Toulouse, que vous enseignez à l'Institut catholique de Toulouse et que vous animerez les 16 et 17 mars prochains une session à l'IURP sur le grand âge et le vieillissement. Et c'est de cela, de ce thème-là, dont nous nous entretenons avec vous au long de ce mois de janvier, qui d'ailleurs est un mois où à la fois nous sommes dans la foulée de Noël et en même temps nous avons eu ce beau texte, où nous allons avoir ce beau texte de la présentation de Jésus au Temple, et nous avions rencontré, vous aviez dit que c'était la seconde balise, n'est-ce pas, de notre parcours, de votre parcours dans le Nouveau Testament, avec Siméon, dont on ne précise pas l'âge, mais dont le contexte nous donne à penser qu'il a déjà une partie de sa vie derrière lui, et puis par contre Anne, dont on précise qu'elle avait 84 ans.
Voilà. Donc nous avions deux phares, si vous voulez, qui peuvent être contemplés par chacun dans sa propre réflexion sur son avancée en âge. Et puis on avait distingué des phares, des balises. C'est-à-dire les balises, c'est ce qui flotte à la surface de l'eau, de la mer. Et quand on se trouve sur le bord de la rive, eh bien on les voit, mais elles ne sont peut-être pas aussi visibles que ça. Alors nous avions évoqué une première balise qui était le texte qui reprenait le texte de Jean au chapitre 3, la place de Nicodème, hein, et sa question qu'il posait à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Et puis nous avions une deuxième balise qui était surtout liée à l'accomplissement du commandement, ce fameux commandement qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais « honore ton père et ta mère », et puis et la bénédiction qui en résulte. Et puis nous avons une troisième balise. Alors cette troisième balise, elle est intéressante. On la trouve dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Alors, il faut être prudent avec cette citation-là, puisque on sait que si on continue la citation, on a le contexte entier. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « suis-moi ». Mais si l'on retient uniquement la première partie, on peut malgré tout avoir une réflexion intéressante sur l'avancée en âge. D'une certaine manière, la vie telle qu'elle s'organise aujourd'hui, et on peut penser qu'elle a toujours, d'une certaine façon, été organisée comme ça, amène à un moment donné à ne plus mettre sa ceinture soi-même et à ne plus prendre la direction que l'on souhaite. C'est-à-dire à se laisser porter ou à être forcé d'aller dans des endroits, on peut penser à un logement, ou dans des formes d'activité que l'on ne souhaite pas. Alors, ça pose au fond la question de l'autonomie, ça pose probablement la question de la liberté aussi. Mais on peut malgré tout méditer ce texte en se disant, il y a là quelque chose que la Bible, que les Écritures nous donnent, et qui montre qu'au fond, cette liberté, elle n'est pas une liberté qui est sans limite. Elle tient largement compte de ce qui est vécu par d'autres, et elle tient largement compte de ce que finalement son but n'est pas toujours d'aller où on veut aller, mais c'est aussi dans une perspective de foi de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire d'être aussi participant de la manifestation de qui est Dieu et de qui est Dieu dans le monde.
Mais n'est-ce pas à ce moment-là une forme de liberté intérieure ?
Alors on peut l'appeler intérieure, elle va nécessairement se manifester par un agir ou par une absence d'agir. Si on revient au premier phare, la prophétesse Anne, c'est quelqu'un qui se tient dans le temple, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui attend la venue d'Israël. Donc on voit bien qu'il y a, ça peut être cette vie, je dirais, plus contemplative ou plus méditative, plus intérieure, peut-être effectivement davantage cultivée à ce moment-là que d'autres activités. je pense que il n'y a pas de recette, il n'y a pas de réponse unique à cette question-là. Chacun a à trouver où il entend aller, où il se sent appelé. Mais il est certain qu'au plus on avance en âge, au plus on est entouré d'éléments qui nous font dire que on ira là où on ne voudra pas aller. Et donc, comment vivre avec ces éléments-là, c'est quelque chose qui, je pense, est une question importante. Laissez-moi vous dire, par exemple, que une question qui est très peu débattue, même si on en trouve maintenant toute une série d'articles, c'est au fond la vie affective des personnes âgées. C'est quelque chose dont on parle assez peu. La vie affective et sexuelle des personnes âgées, on en parle assez peu. Et pourtant, s'il y a bien quelque chose d'essentiel dans la vie, c'est de pouvoir exprimer des sentiments, des émotions, de l'affection pour quelqu'un. Et là, on voit quand même, et le droit nous montre, surtout le droit des parents, des grands-parents, le droit nous montre combien de personnes sont privées du fait de voir leurs petits-enfants, par exemple. Donc, on va aussi vous dire dans certains pays que vous perdez la pension de retraite qui devrait être la vôtre, parce que si vous vous remariez ou si vous vous remettez en couple avec quelqu'un, eh bien tout d'un coup, on vous retirera le bénéfice de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a des éléments comme ça qui font dire que, au fond, on est amené à aller là où on ne voudrait pas aller. Une petite anecdote. Je présentais une séquence de dessins et d'imprimés dans une EHPAD à Toronto il y a quelques années. Et avant de cette conférence, on m'avait d'ailleurs prévenu, la directrice m'avait dit, ça ne durera pas plus qu'une heure parce que les gens sont fatigués. En réalité, ça a duré 3 heures parce qu'en regardant les dessins, des gens ont commencé à s'exprimer sur leurs propres émotions et sur des situations de leur propre vie. C'était magnifique. Le personnel s'y est mis aussi. Voilà que les gens étaient vivants et qu'ils s'exprimaient comme des gens vivants. C'était absolument étonnant. Mais avant ça, il y avait un déjeuner. Bon. Alors, je suis arrivé à ce déjeuner. C'était une EHPAD tenue par la communauté, par une des synagogues de Toronto. Et je suis arrivé à ce déjeuner assez formel, avec habillé avec un col romain, comme on le met habituellement pour ce genre d'occasion au Canada. Et à ma droite, une dame qui avait travaillé toute sa vie dans le domaine de la mode à Milan, dans les 86-87 ans. Conversation très agréable à table, et avant le dessert, elle me dit « Vous avez de beaux yeux ». Et je lui dis « Madame, merci beaucoup pour le compliment ». Et ne sachant pas trop comment répondre, je lui dis « Et je suis sûr que ma maman sera très heureuse du compliment, puisqu'elle m'a fait avec mon papa, et que, si vous voulez, je peux vous donner son numéro de téléphone. » Moi, je pensais à ça en me disant, j'évacue la question, mais tout en créant un lien. Et cette dame me dit, en anglais, elle me dit, « Quoi ? Le numéro de téléphone de votre mère ? Mais non, c'est le vôtre qu'il me faut. » Vous voyez, la capacité qu'ont les personnes de pouvoir exprimer un sentiment, une affection, c'est quand même quelque chose qui, dans nos sociétés, pour les personnes avancées en âge, soit est quelque chose dont on ne parle pas ou dont on ne veut pas parler, alors que ça continue à être la manière de vivre en étant debout et vivant, mais jusqu'au moment où comme l'a dit Siméon, eh bien le moment où le Seigneur viendrait le chercher. Et donc cette capacité qu'ont les personnes de continuer à vivre comme ça, c'est probablement une chose absolument essentielle, où là il n'y a pas trop à discuter sur le fait de savoir si on va ou pas là où on ne veut pas aller. Non, vivre en étant vivant et debout, c'est quand même quelque chose qui fait l'essentiel de notre humanité, et c'est là où nous avons à poursuivre. Et donc, toute cette réflexion, si vous voulez, à partir de balises ou de phares que l'on peut repérer dans les Écritures, tout cela fait dire que le Nouveau Testament probablement pas autant que l'ancien, qui nous donne une figure contrastée hein, de la vieillesse, autant les hommes que les femmes, on les présente à la fois comme les sages, mais on les présente aussi comme de véritables satyres et des tyrans. Mais dans le Nouveau Testament, on a quelque chose qui est davantage peut-être diffus, mais dont je pense ce type de travail sur les représentations dans les dessins et les imprimés, associé à des passages de l'écriture, montre combien il y a une place pour une réflexion sur l'avancée en âge dans le Nouveau Testament. Au fond, on pourrait presque imaginer qu'à l'image de la gérontologie, il y a une espèce de géronthéologie qui pourrait être envisagée. Après tout, l'idée n'est quand même pas si loufoque, puisque on voit bien qu'il y a de théologie de la création, qu'il y a des manières de mettre des lunettes pour regarder une certaine thématique en théologie. Et donc, pourquoi pas, en ces temps qui sont les nôtres, où il y a un vieillissement de la population, où nous avançons nous-mêmes en âge, et nous sommes entourés de gens qui avancent en âge, pourquoi pas entrer dans ce type de réflexion, sachant que ce n'est pas purement académique, mais qu'il s'agit bien, pour chacun, de cultiver ce qu'il va continuer à nous rapprocher. Comme dit Ignace de Loyola, le créateur de sa créature et la créature de son créateur, mais surtout de retrouver cette espèce de conversion qui nous fait quitter ce qu'est le vieil homme en nous.
Merci, cher Père Évrard, Albert Évrard. Je rappelle que vous donnez une session à l'IERP, aux 8 places du Parlement à Toulouse, les 16 et 17 mars prochains. Et alors, l'intéressant sera non seulement de vous entendre à nouveau, mais de regarder avec vous, puisque j'imagine que vous allez nous inviter pendant cette session à regarder ces représentations que vous avez évoquées.
Oui, alors toutes les représentations, il y en a une quarantaine. Et donc, la journée sera composée de deux temps, un temps d'exposition de ces représentations, et puis alors un temps d'atelier dans l'après-midi, à partir de ces représentations et de ce que chacun aura pu percevoir de sa propre contemplation de ces dessins et imprimés.
Merci beaucoup, et donc bonne session et bon travail à vous.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.